Chapitre 17, Les pressentiments, le roman de Gilbert, le père et la fille. Le lendemain, comme midi venait de sonner à l'horloge du Trianon, Nicole vint crier à André, qui n'avait pas quitté sa chambre, « Mademoiselle, mademoiselle, voici Monsieur Philippe !» Ce cri partait du bas de l'escalier. André, toute surprise, mais toute joyeuse en même temps, ferma son peignoir de mousseline et courut au-devant du jeune homme qui venait bien réellement de descendre de cheval dans la cour de Trianon et qui s'informait à quelques domestiques de l'heure à laquelle il pourrait parler à sa sœur. André ouvrit donc la porte elle-même et se trouva aussitôt en face de Philippe que l'officieuse Nicole avait été quérir dans la cour et conduisait par les degrés. La jeune fille se jeta au cou de son frère et tous deux rentrèrent dans la chambre d'André, suivis de Nicole. Ce fut seulement alors qu'André s'aperçut que Philippe était plus sérieux que de coutume, que son sourire même n'était point exempt de tristesse, qu'il portait son élégant uniforme avec la plus scrupuleuse exactitude et qu'il tenait un manteau de voyage plié sous son bras gauche. « Qu'y a-t-il donc, Philippe ? » demanda-t-elle aussitôt, avec cet instinct des âmes tendres pour qui un regard est une révélation suffisante. « Ma sœur, dit Philippe, j'ai reçu ce matin l'ordre de rejoindre mon régiment. Et vous partez ? Et je pars. « Oh ! » fit André, qui exhala dans ce cri douloureux tout son courage et une partie de ses forces. Et quoique ce fût une chose bien naturelle et à laquelle elle dut s'attendre que ce départ, elle se sentit tellement brisée en l'apprenant qu'elle fut forcée de se retenir au bras de son frère. « Mon Dieu !» demanda Philippe, étonné. « Ce départ vous afflige à ce point, André. Dans la vie d'un soldat, vous le savez, c'est un événement des plus vulgaires. »« Oui, oui, sans doute, » murmura la jeune fille. « Et où allez-vous donc, mon frère ?»« Ma garnison est à Reims. Ce n'est pas un voyage bien long que j'entreprends, comme vous voyez. Il est vrai que de là, le régiment, selon toute probabilité, retourne à Strasbourg. » « Hélas, fit André, et quand partez-vous ? L'ordre m'enjoint de me mettre en route à l'instant même. Ce sont donc des adieux que vous venez me faire ? Oui, ma sœur, des adieux. Avez-vous quelque chose de particulier à me dire, André ? Demanda Philippe, inquiet de cette tristesse, trop exagérée, pour quel point quelque autre cause que ce départ ? André comprit que ces mots étaient à l'adresse de Nicole, laquelle regardait cette scène avec une surprise que motivait l'extrême douleur d'André. En effet, le départ de Philippe, c'est-à-dire d'un officier pour sa garnison, n'était pas une catastrophe qui dût causer tant de larmes. André comprit donc du même coup et le sentiment de Philippe et la surprise de Nicole. Elle prit un mantelet qu'elle jeta sur ses épaules et, dirigeant son frère vers l'escalier, « Venez, dit-elle, jusqu'à la grille du parc, Philippe, je vous reconduirai par l'allée ouverte. J'ai en effet bien des choses à vous dire, mon frère. » Ces mots étaient pour Nicole un ordre de départ. Elle s'effaça le long du mur et rentra dans la chambre de sa maîtresse, tandis que celle-ci descendait l'escalier avec Philippe. André descendit l'escalier qui longe la chapelle et sortit par le passage qui, aujourd'hui encore, mène au jardin. Mais quoique interrogée incessamment par le regard inquiet de Philippe, elle se tint longtemps suspendue à son bras, laissant s'appuyer sa tête à son épaule sans prononcer une seule parole. Puis, tout à coup, son cœur se brisa, ses traits se couvrirent d'une pâleur mortelle, un long sanglot monta jusqu'à ses lèvres et des larmes obscurcirent ses yeux. « Ma chère sœur, ma bonne André, s'écria Philippe, mais au nom du ciel, qu'avez-vous donc ?» « Mon ami, mon unique ami, dit André, vous me laissez seul en ce monde où j'entre d'hier et vous me demandez pourquoi je pleure. Ah, songez-y, Philippe, j'ai perdu ma mère en naissant. C'est affreux à dire, mais je n'ai jamais eu de père. Tout ce que mon cœur a éprouvé de petits chagrins, tout ce que mon esprit a renfermé de petits secrets, c'est à vous seul que je les ai confiés. Qui m'a souri, qui m'a caressé, qui m'a bercé quand j'étais enfant, c'est vous. Qui m'a protégé depuis que je suis grandi, c'est vous. Qui m'a fait croire que les créatures de Dieu n'avaient pas été jetées dans le monde seulement pour y souffrir. C'est vous, Philippe, toujours vous. Car enfin, je n'ai jamais rien aimé, ni personne depuis que je suis au monde, excepté vous. Et personne non plus ne m'a aimé comme vous. Oh, Philippe, continua mélancoliquement André, vous détournez la tête et je lis dans votre pensée. Vous vous dites que je suis jeune, que je suis belle, et que j'ai le tort de ne pas compter sur l'avenir et sur l'amour. Hélas, vous le voyez cependant bien, Philippe, il ne suffit pas d'être belle et d'être jeune, puisque personne ne s'occupe de moi. Ma dauphine est bonne, direz-vous, mon ami. Sans doute, elle est parfaite, à mes yeux du moins, et je la regarde comme une divinité, mais c'est surtout parce que je la range dans la sphère surhumaine que j'ai pour elle du respect et non de l'affection. Or, l'affection, Philippe, c'est ce sentiment si nécessaire à mon cœur qui, toujours refoulé dans mon cœur, le brise. Mon père, mon Dieu, mon père, je ne vous apprends rien de nouveau, Philippe. Non seulement mon père n'est pas pour moi un protecteur ou un ami, mais encore, mon père ne me regarde jamais sans me faire peur. Oui, oui, j'ai peur, Philippe, peur de lui, surtout, depuis que je vous vois partir. Peur de quoi? Je n'en sais rien. Et mon Dieu, les oiseaux qui fuient, les troupeaux qui mugissent, n'ont-ils pas eu aussi peur de l'orage, quand l'orage va venir? Ah, c'est de l'instinct, direz-vous. Mais pourquoi refuseriez-vous à notre ami mortel l'instinct du malheur? Tout, depuis quelque temps, réussit à notre famille. Je le sais bien. Vous voilà capitaine, vous. Moi, me voilà placé presque dans l'intimité de madame la dauphine. Mon père a soupé hier, dit-on, presque en tête à tête avec le roi. Eh bien, Philippe, je le répète, dussé-je vous paraître insensé, tout cela m'effraie plus que notre douce misère et notre obscurité de tavernet. Et cependant, là-bas, chère sœur, dit tristement Philippe, vous étiez seule aussi. Là-bas non plus, je n'étais pas avec vous pour vous consoler. Oui, mais au moins j'étais seul, seul avec mes souvenirs d'enfance. Il me semblait que cette maison où avait vécu, où avait respiré, où était morte ma mère, me devait la protection natale, si l'on peut s'exprimer ainsi. Tout y était doux, caressant, ami. Je vous voyais partir avec calme et revenir avec joie. Mais que vous partissiez ou revinssiez, mon cœur n'était pas tout à vous. Il tenait à cette chère maison, à mes jardins, à mes fleurs, à cet ensemble dont autrefois vous n'étiez qu'une partie. Aujourd'hui, vous êtes le tout, Philippe, et quand vous me quittez, tout me quitte. Et cependant, André, dit Philippe, aujourd'hui, vous avez une protection bien autrement puissante que la mienne. C'est vrai, un bel avenir, qui sait? Pourquoi donc doutez-vous? Je l'ignore. Oh, c'est de l'ingratitude envers Dieu, ma sœur. Oh non, grâce au ciel, je ne suis pas ingrate envers le Seigneur, et soir et matin, je le remercie, mais il me semble qu'au lieu de recevoir mes actions de grâce, chaque fois que je fléchis les genoux, une voix d'en haut me dit « Prends garde, jeune fille, prends garde ». Mais à quoi dois-tu prendre garde? Réponds. J'admets avec toi qu'un malheur te menace. As-tu quelque pressentiment de ce malheur? Sais-tu que faire pour aller au-devant de lui en l'affrontant ou que faire pour l'éviter? Je ne sais rien, Philippe, si ce n'est qu'il me semble, vois-tu, que ma vie ne tient plus qu'à un fil, que rien ne luit plus pour moi au-delà de ce moment qui va marquer ton départ. Il me semble en un mot que, pendant mon sommeil, on m'a roulé sur la pente d'un précipice trop rapide pour que je m'arrête en me réveillant. Que je suis réveillé, que je vois l'abîme et que cependant j'y suis entraîné et que, vous absent, vous n'étant plus là pour me retenir, je vais y disparaître et m'y briser. Chère sœur, bon André, dit Philippe, ému malgré lui, à cet accent plein de terreur si vrai, vous exagérez une tendresse dont je vous remercie. Oui, vous perdez un ami, mais momentanément, je ne serais pas si loin que vous ne puissiez me rappeler si besoin était. D'ailleurs, songez qu'à l'exception de vos chimères, rien ne vous menace. André s'arrêta devant son frère. Alors, Philippe, dit-elle, vous qui êtes un homme, vous qui avez plus de force que moi, d'où vient que vous êtes en ce moment aussi triste que je le suis moi-même? Voyons, dites, mon frère, comment expliquez-vous cela? C'est facile, chère sœur, dit Philippe, en arrêtant la marche d'André qu'elle avait reprise en cessant de parler. Nous ne sommes pas frères et sœurs seulement par l'âme et le sang, mais encore par l'âme et les sentiments. Aussi vivions-nous dans une intelligence qui, pour moi surtout, depuis notre arrivée à Paris, est devenue une bien douce habitude. Je romps cette chaîne, cher ami, plutôt on la rompt, et le coup s'en fait sentir jusque dans mon cœur. Je suis donc triste, mais momentanément, voilà tout. Moi, André, moi, je vois au-delà de notre séparation. Moi, je ne crois pas à un malheur, si ce n'est à celui de ne plus nous voir pendant quelques mois, pendant une année peut-être. Moi, je me résigne et ne vous dis point adieu, mais au revoir. Malgré ces paroles consolantes, André ne répondit que par ses sanglots et par ses larmes. Chère sœur, s'écria Philippe en voyant l'expression de cette tristesse qui lui paraissait incompréhensible, chère sœur, vous ne m'avez pas tout dit, vous me cachez quelque chose. Parlez au nom du ciel, parlez! Et il la prit dans ses bras, la rapprochant de lui et la pressant sur son cœur pour lire dans ses yeux. Moi, dit-elle, non, non, Philippe, je vous jure, vous savez tout et vous avez tout mon cœur entre vos mains. Eh bien, alors, par grâce, André, du courage, ne vous affligez point ainsi. Vous avez raison, dit-elle, et je suis folle. Écoutez, je n'ai jamais eu l'esprit bien fort, vous le savez mieux que personne, vous, Philippe. Toujours j'ai craint, toujours j'ai rêvé, toujours j'ai soupiré, mais je n'ai pas le droit d'associer à mes douloureuses chimères un frère si tendrement aimé, alors qu'il me rassure et me prouve que j'ai tort de m'alarmer. Vous avez raison, Philippe, c'est vrai, c'est bien vrai. Tout est parfait pour moi ici. Philippe, pardonnez-moi donc. Vous le voyez, j'essuie mes yeux, je ne pleure plus, je souris. Et Philippe, ce n'est plus un adieu, c'est un au revoir que je vais dire. Et la jeune fille embrassa tendrement son frère en lui dérobant une dernière larme qui voilait encore sa paupière et qui roula comme une perle sur l'aiguillette d'or du jeune officier. Philippe la regarda avec cette tendresse infinie qui tient à la fois du frère et du père. André, dit-il, je vous aime ainsi, soyez courageuse. Je pars, mais le courrier vous apportera une lettre de moi chaque semaine. Faites, je vous prie, que chaque semaine aussi, j'en reçoive une de vous. Oui, Philippe, dit André, oui, et ce sera mon seul bonheur. Mais vous avez prévenu mon père, n'est-ce pas? De quoi? De votre départ. Chère sœur, c'est le baron, au contraire, qui ce matin m'a lui-même apporté l'ordre du ministre. Monsieur de Tavernay n'est pas comme vous, André, et il se passera facilement de moi, à ce qu'il paraît. Il semblait heureux de mon départ, et au fait, il avait raison. Ici, je n'avancerai pas, tandis que là-bas, il peut se présenter des occasions. Mon père est heureux de vous voir partir, murmura André. Vous ne vous trompez pas, Philippe? Il vous a, répondit Philippe, élu dans la question, et c'est une consolation, ma sœur. Le croyez-vous, Philippe? Il ne me voit jamais. Ma sœur, il m'a chargé de vous dire qu'aujourd'hui même, après mon départ, il viendrait à Trianon. Il vous aime, croyez-le bien, seulement il aime à sa manière. Qu'avez-vous encore, Philippe? Vous semblez embarrassé. Cher André, c'est que l'heure vient de sonner. Quelle heure est-il, vous plaît? Les 3 quarts après-midi. Eh bien, chère sœur, c'est ce qui cause mon embarras, c'est que voilà 1 heure que je devrais être en route, et nous voici à la grille où l'on tient mon cheval. Ainsi donc, André prit un visage calme et s'emparant de la main de son frère. Ainsi donc, dit-elle avec un accent trop ferme pour qu'il n'y eût pas d'affectation dans sa voix, ainsi donc, adieu, mon frère. Philippe l'embrassa une dernière fois. Au revoir, dit-il, rappelez-vous votre promesse. Laquelle? Une lettre au moins par semaine. Oh, vous le demandez. Et elle prononça ces paroles avec un suprême effort. La pauvre enfant n'avait plus de voix. Philippe la salua encore du geste et s'éloigna. André le suivit des yeux, retenant son haleine pour retenir ses soupirs. Philippe monta à cheval, lui cria encore une fois adieu de l'autre côté de la grille et partit. André demeura debout et immobile tant qu'elle put le voir. Puis, lorsqu'il eut disparu, elle se détourna et courut, comme une biche blessée, jusqu'aux ombrages, aperçut un banc et n'eut que la force de le joindre et de tomber dessus, sans pouls, sans force, sans regard. Puis, tirant au plus profond de sa poitrine un long et déchirant sanglot, Ah, mon Dieu, s'écria-t-elle, pourquoi me laissez-vous seule ainsi sur la terre? Et elle ensevelit son visage dans ses mains, laissant échapper entre ses doigts blancs les grosses larmes qu'elle ne cherchait plus à tenir. En ce moment, un léger bruit retentit derrière la charmille. André crut avoir entendu un soupir. Elle se retourna, effrayée. Une figure triste se dressa devant elle. C'était Gilbert, aussi pâle qu'André, aussi désolé, aussi abattu qu'elle. André, à la vue d'un homme, à la vue d'un étranger, André se hâta d'essuyer ses yeux comme si la fière jeune fille eût rougi de pleurer. Elle composa son maintien et rendit l'immobilité à ses joues marbrées qu'agitait à l'instant même le frisson du désespoir. Gilbert fut bien plus longtemps qu'elle à reprendre son calme, et ses traits gardèrent l'expression douloureuse que Mademoiselle de Tavernay, aussitôt qu'elle releva les yeux, put, en le reconnaissant, remarquer dans son attitude et dans son regard. « Ah, c'est quoi, Monsieur Gilbert ?» dit André avec ce ton léger qu'elle affectait de prendre chaque fois qu'elle croyait que le hasard la rapprochait du jeune homme. Gilbert ne répondit rien. Il était encore trop violemment ému. Cette douleur qui avait fait frissonner le corps d'André avait violemment secoué le sien. Ce fut donc André qui continua, voulant avoir le dernier mot de cette apparition. « Mais qu'avez-vous donc, Monsieur Gilbert » demanda-t-elle. « Qu'avez-vous à me regarder avec cet air dolent? Il faut que quelque chose vous attriste. Quelque chose vous attriste donc, s'il vous plaît ?»« Vous désirez le savoir ?» demanda mélancoliquement Gilbert, qui sentait l'ironie cachée sous cette apparence d'intérêt. « Oui. Eh bien, ce qui m'attriste, c'est de vous voir souffrir, mademoiselle, » répliqua Gilbert. « Et qui vous a dit que je souffrais, monsieur ?» « Je le vois. Je ne souffre pas. Vous vous trompez, monsieur, » dit André en passant une seconde fois son mouchoir sur son visage. Gilbert sentait monter l'orage. Il résolut de le détourner par son humilité. « Pardon, mademoiselle, » dit-il, « c'est que j'ai entendu vos plaintes. »« Ah, vous écoutiez. C'est mieux, alors. »« Mademoiselle, c'est le hasard, » balbutia Gilbert, car il se sentait mentir. « Le hasard ? Je suis désespéré, monsieur Gilbert, que le hasard vous ait amené près de moi. Mais encore en quoi ces plaintes que vous avez entendues ont-elles pu vous attrister ? Dites-le-moi, je vous prie. » « Il m'est impossible de voir pleurer une femme, » dit Gilbert, d'un ton qui déplut souverainement à André. « Est-ce que, par hasard, je serai une femme pour monsieur Gilbert ?» répliqua la hautaine jeune fille. « Je ne m'en dis l'intérêt de personne, mais celui de monsieur Gilbert encore moins que celui de tout autre. »« Mademoiselle, » dit Gilbert, secouant la tête, « vous avez tort de me rudoyer ainsi. Je vous ai vue triste, je me suis affligé. Je vous ai entendu dire que monsieur Philippe parti, vous étiez désormais seul au monde. Eh bien non, non, mademoiselle, car je suis resté, moi, et jamais cœur plus dévoué n'a battu pour vous. » Je le répète, non, jamais mademoiselle de Tavernay ne sera seule au monde tant que ma tête pourra penser, tant que mon cœur pourra battre et tant que mon bras pourra s'étendre. Gilbert était vraiment beau de vigueur, de noblesse et de dévouement, tout en prononçant ces paroles, bien qu'il y mit toute simplicité que commandait le respect le plus vrai. Mais il était dit que tout dans le pauvre jeune homme déplairait à André, l'offenserait et la pousserait à des ripostes blessantes, comme si chacun de ses respects eût été une insulte, chacune de ses prières une provocation. D'abord elle voulut se lever pour trouver un geste plus dur, avec une parole plus libre, mais un frisson nerveux la retint sur son banc. Elle pensa d'ailleurs que, debout, elle serait vue de plus loin et vue causant avec Gilbert. Elle demeura donc sur son banc, car une fois pour toutes, elle voulait écraser sous son pied l'insecte qui devenait importun. Elle répondit donc, « Je croyais vous avoir dit, monsieur Gilbert, que vous me plaisiez souverainement, que votre voix m'irritait, que vos façons philosophiques me répugnaient. Pourquoi donc, moi vous ayant dit cela, vous obstinez-vous encore à me parler ?»« Mademoiselle, » dit Gilbert, pâle mais contenu, on n'irrite pas une honnête femme en lui témoignant de la sympathie. Un honnête homme est l'égal de toute créature humaine, et moi, vous me maltraitez avec cet acharnement. Eh bien, moi, je mérite peut-être plus qu'un autre la sympathie que je regrette de ne pas vous voir éprouver pour moi. » André, à ce mot de sympathie, deux fois répété, ouvrit de grands yeux et les attacha impertinemment sur Gilbert. « De la sympathie, » dit-elle, « de la sympathie de vous à moi, monsieur Gilbert. En vérité, je me trompais à votre égard. Je vous tenais pour un insolent, et vous êtes moins que cela, et vous n'êtes qu'un fou. » « Je ne suis ni un insolent ni un fou, » dit Gilbert, avec un calme apparent qui dut bien coûter à cette fierté que nous connaissons. Non, mademoiselle, car la nature m'a fait votre égale, et le hasard vous a fait mon obligé. Le hasard, encore, dit ironiquement André. La providence, eussé-je dû dire peut-être, je ne vous eusse jamais parlé de cela, mais vos injures me rendent la mémoire. Votre obligé, moi, votre obligé. Je crois, comment avez-vous dit cela, monsieur Gilbert? J'aurais honte pour vous de l'ingratitude, mademoiselle, et Dieu vous a faite si belle, vous a donné, pour compléter votre beauté, assez d'autres défauts sans celui-là. Cette fois, André se leva. Tenez, pardonnez-moi, dit Gilbert, vous méritez par trop quelquefois, alors j'oublie tout intérêt que vous m'inspirez. André se mit à rire aux éclats, de manière à pousser la colère de Gilbert à son paroxysme. Mais, à son grand étonnement, Gilbert ne s'enflamma point. Il croisa ses bras sur sa poitrine, garda l'expression hostile et obstinée de son regard de feu, et attendit patiemment la fin de ce rire outrageant. Mademoiselle, dit froidement Gilbert à André, daignez-vous répondre à une seule question? Respectez-vous votre père? Je crois en vérité que vous m'interrogez, monsieur Gilbert, s'écria la jeune fille avec une souveraine hauteur. Oui, vous respectez votre père, continua Gilbert, et ce n'est point à cause de ses qualités, à cause de ses vertus, non, c'est par ça simplement qu'il vous a donné la vie. Un père, malheureusement, vous devez savoir cela, mademoiselle, un père n'est respectable qu'à un seul titre, mais enfin c'est un titre. Il y a plus pour ce seul bienfait de la vie, et Gilbert s'anima à son tour d'une dédaigneuse pitié. Pour ce seul bienfait, continua-t-il, vous êtes tenue d'aimer le bienfaiteur. Eh bien, mademoiselle, cela posait en principe, pourquoi m'outragez-vous? Pourquoi me repoussez-vous? Pourquoi me haïssez-vous? Moi qui ne vous ai pas donné la vie, c'est vrai, mais moi qui vous l'ai sauvée. Vous, s'écria André, vous m'avez sauvé la vie. Ah, vous n'y avez même pas pensé, dit Gilbert, ou plutôt, vous l'avez oublié. C'est fort naturel, il y a tantôt un an de cela. Eh bien, mademoiselle, il faut alors vous l'apprendre ou vous le rappeler. Oui, je vous ai sauvé la vie en sacrifiant la mienne. Au moins, monsieur Gilbert, dit André, fort pâle, vous me ferez la grâce de me dire où et quand. Le jour, mademoiselle, où 100 000 personnes s'écrasant les unes sur les autres, fuyant des chevaux fougueux, des sabres qui fauchaient la foule, laissèrent sur la place Louis XV une longue jonchée de cadavres et de blessés. Ah, le 31 mai. Oui, mademoiselle. André se remit et reprit son sourire ironique. Et ce jour-là, dites-vous, vous avez sacrifié votre vie pour sauver la mienne, monsieur Gilbert. J'ai déjà eu l'honneur de vous le dire. Vous êtes donc monsieur le baron de Balsamo. Je vous demande pardon, car je l'ignorais. Non, je ne suis pas le baron de Balsamo, dit Gilbert, les yeux enflammés et la lèvre frémissante. Je suis le pauvre enfant du peuple, Gilbert, qui a la folie, la sottise, le malheur de vous aimer, qui, parce qu'il vous aimait comme un insensé, comme un fou, comme un forcené, vous a suivi dans la foule. Je suis Gilbert qui, séparé de vous un instant, vous reconnut au cri terrible que vous poussâtes en perdant pied. Gilbert qui tomba près de vous et vous entoura de ses bras jusqu'à ce que 20 000 bras pesant sur les siens eussent brisé sa force. Gilbert qui se jeta sur le pilier de pierre où vous alliez être écrasé pour vous offrir l'appui le plus moelleux de son cadavre. Gilbert qui, apercevant dans la foule cet homme étrange qui semblait commander aux autres hommes et dont vous venez de prononcer le nom, rassembla toutes ses forces, tout son sang, toute son âme et vous souleva dans ses bras mourants afin que cet homme vous aperçût, vous prît, vous sauvât. Gilbert enfin qui de vous, qu'il cédait à un sauveur plus heureux que lui, ne garda qu'un lambeau de votre robe que j'appuyais sur mes lèvres, car il était temps, car le sang afflua aussitôt à mon cœur, à mes tempes, à mon cerveau. La masse roulante des bourreaux et des victimes me couvrit comme le flot et m'ensevelit, tandis que, pareil à l'ange de la résurrection, vous montiez, vous, de mon abîme vers le ciel. Gilbert venait de se montrer tout entier, c'est-à-dire sauvage, naïf, sublime, dans sa résolution comme dans son amour. Aussi André, malgré son mépris, ne pouvait-elle le regarder sans étonnement? Aussi crut-elle un instant que son récit avait été irrésistible comme la vérité, comme l'amour, mais le pauvre Gilbert comptait sans l'incrédulité, sans cette mauvaise foi de la haine. Or André, qui haïssait Gilbert, ne s'était laissé prendre à aucun des arguments vainqueurs de cet amant dédaigné. D'abord, elle ne répondit rien. Elle regardait Gilbert et quelque chose comme un combat se passait dans son esprit. Aussi, mal à l'aise devant ce silence glacé, le jeune homme se vit-il obligé d'ajouter, en matière de péroraison, « Maintenant, mademoiselle, ne me détestez donc pas autant que vous le faisiez, car ce serait non seulement de l'injustice, mais encore de l'ingratitude, ainsi que je vous le disais tout à l'heure et je vous le répète maintenant. » Mais à ces mots, André leva sa tête altière et du ton le plus indifféremment cruel. « Monsieur Gilbert, dit-elle, combien de temps, s'il vous plaît, de vous rester en apprentissage chez Monsieur Rousseau ?»« Mademoiselle, dit naïvement Gilbert, 3 mois, je crois, sans compter les jours de ma maladie, suite de l'étouffement du 31 mai. « Vous vous méprenez, dit-elle, je ne vous demande point de me dire si vous avez été ou non malade d'étouffement. Cela couronne artistement peut-être votre récit, mais il m'importe peu. Je voulais seulement vous dire, n'ayant séjourné que 3 mois chez l'illustre écrivain, que vous en avez fort bien profité et que l'élève fait du premier coup des romans presque dignes de ceux que publie le maître. » Gilbert, qui avait écouté avec tranquillité, croyant qu'André allait, aux choses passionnées qu'il avait dites, répondre des choses sérieuses, tomba de toute la hauteur de sa bonhomie sous le coup de cette ironie cinglante. « Un roman, murmura-t-il indigné, vous traitez de roman ce que je viens de vous dire ?»« Oui, monsieur, dit André, un roman, je répète le mot. Seulement, vous ne m'avez pas forcé de le lire, et je vous en sais gré, mais malheureusement, j'ai le profond regret de ne pouvoir le payer ce qu'il faut, car j'y tenterais en vain, le roman étant impayable. » « Ainsi, voilà donc ce que vous me répondez, » balbutia Gilbert, le cœur serré, les yeux éteints. « Je ne vous réponds même pas, monsieur, » dit André en le repoussant pour passer devant lui. En effet, Nicole arrivait, appelant sa maîtresse du bout de l'allée pour ne pas interrompre trop brusquement l'entretien dont elle ignorait l'interlocuteur, n'ayant pas reconnu Gilbert à travers les ombrages. Mais en approchant, elle vit le jeune homme, le reconnut et demeura stupéfaite. Alors elle se repentit bien de n'avoir point fait un détour afin d'entendre ce que Gilbert avait pu dire à mademoiselle de Tavernay. Alors celle-ci, s'adressant à Nicole d'une voix adoucie, comme pour mieux faire comprendre à Gilbert la hauteur avec laquelle elle lui avait parlé, « Qu'y a-t-il, mon enfant ?» demanda-t-elle. « Monsieur le baron de Tavernay et monsieur le duc de Richelieu viennent de se présenter pour mademoiselle, » répondit Nicole. « Où sont-ils ? Mais chez mademoiselle. Venez. » André s'éloigna. Nicole la suivit, mais non sans jeter, en s'en allant, un regard ironique sur Gilbert, qui, moins pâle que livide, moins agité que fou, moins colère que forcené, tendit le poing dans la direction de l'allée où s'éloignait son ennemi et murmura en grinçant des dents « Oh, créature sans cœur, corps sans âme, je t'ai sauvé la vie, j'ai concentré mon amour, j'ai fait taire tout sentiment qui pouvait offenser ce que j'appellerais ta candeur, car pour moi, dans mon délire, tu étais une vierge sainte comme la vierge qui est au ciel. Maintenant, je t'ai vue de près. » Tu n'es plus qu'une femme et je suis un homme. Oh, un jour ou l'autre, je me vengerai, André de Tavernay. Je t'ai tenu 2 fois entre mes mains et 2 fois je t'ai respecté. André de Tavernay, prends garde à la 3e. Au revoir, André. » Et il s'éloigna, bondissant à travers les massifs, comme un jeune loup blessé qui se retourne en montrant ses dents aiguës et sa prunelle sanglante. Au bout de l'allée, André aperçut en effet le maréchal et son père qui se promenaient devant le vestibule en l'attendant. Les deux amis semblaient être les plus joyeux du monde. Ils se tenaient par le bras. On n'avait pas encore vu à la cour Oreste et Pylade aussi exactement représentés. À la vue d'André, les deux vieillards se réjouirent encore plus et se firent remarquer l'un à l'autre sa radieuse beauté, augmentée encore par la colère et la rapidité de la marche. Le maréchal salua André comme il l'eût fait à madame de Pompadour déclarée. Cette nuance n'échappa point à Tavernay qui en fut enchanté, mais elle surprit André par ce mélange de respect et de galanterie libre. « car l'habile courtisan savait mettre autant de détails dans un salut que Coviel savait mettre de phrases françaises dans un seul mot de turc. André rendit une révérence qui fut aussi cérémonieuse pour son père que pour le maréchal, puis elle les invita tous deux, avec une grâce charmante, à monter dans sa chambre. Le maréchal admira cette élégante propreté, seul le luxe de l'ameublement et de l'architecture de ce réduit. Avec des fleurs, avec un peu de mousseline blanche, André avait fait de sa triste chambre non pas un palais, mais un temple. Il s'assit sur un fauteuil de perse verte à grandeur, au-dessous d'un grand cornet de la Chine, d'où tombaient des grappes parfumées d'acacia et d'érable, mêlées d'iris et de roses du Bengale. Tavernet eut un fauteuil pareil. André s'assit sur un pliant, le coude appuyé sur un clavecin, également garni de fleurs, dans un large vase de Saxe. « Mademoiselle, dit le maréchal, je viens vous apporter de la part de sa majesté tous les compliments que votre voix charmante et votre talent de musicienne consommée ont arrachés hier à tous les auditeurs de la répétition. Sa majesté a craint de faire des jaloux et des jalouses en vous louant trop haut. Elle a donc bien voulu me charger de vous exprimer tout le plaisir que vous lui avez causé. » André, toute rougissante, était si belle que le maréchal continua comme s'il parlait pour son compte. « Le roi, dit-il, m'a affirmé qu'il n'avait encore vu à sa cour personne qui réunit au même point que vous, mademoiselle, les dons de l'esprit et ceux de la figure. « Vous oubliez ceux du cœur, dit Tavernet avec épanouissement. André est la meilleure des filles. » Le maréchal crut un moment que son ami allait pleurer. Plein d'admiration pour cet effort de sensibilité paternelle, il s'écria « Ah, le cœur ! Hélas, mon cher, vous êtes seul juge de la tendresse que peut renfermer le cœur de mademoiselle. Que n'ai-je 25 ans ? Je mettrai à ses pieds ma vie et ma fortune. » André ne savait pas encore recueillir légèrement l'hommage d'un courtisan. Richelieu n'obtint d'elle qu'un murmure sans signification. « Mademoiselle, dit-il, le roi a voulu vous prier de lui permettre un témoignage de sa satisfaction, et il a chargé monsieur le baron, votre père, de vous le transmettre. Mais que faut-il maintenant que je réponde à sa majesté de votre part ?»« Monsieur, dit André, qui ne vit dans sa démarche qu'une conséquence du respect dû à son roi pour toute sujette, veuillez assurer sa majesté de toute ma reconnaissance. Dites bien à sa majesté qu'elle me comble de bonheur en s'occupant de moi et que je suis bien indigne de l'attention d'un si puissant monarque. » Richelieu parut enthousiasmé de cette réponse que la jeune fille prononça d'une voix ferme et sans aucune hésitation. Il lui prit la main, qu'il baisa respectueusement, et la couvant des yeux, « Une main royale, dit-il, un pied de fée, l'esprit, la volonté, la candeur. Ah, baron, quel trésor ! Ce n'est pas une fille que vous avez là, c'est une reine. » Et sur ce mot, il prit congé, laissant Tavernet prendre, Tavernet qui se gonflait insensiblement d'orgueil et d'espoir. Quiconque l'eût vu, ce philosophe des anciennes théories, ce sceptique, ce dédaigneux, aspirait à longs traits l'air de la faveur dans son bourbier le moins respirable, se fût dit que Dieu avait pétri du même limon l'esprit et le cœur de monsieur de Tavernet. Tavernet seul eût pu répondre à propos de ce changement, « Ce n'est pas moi qui ai changé, c'est le temps. » Donc il resta près d'André, assis, un peu embarrassé, car la jeune fille, avec son inépuisable sérénité, le perçait de deux regards profonds comme la mer en son plus profond abîme. « Monsieur de Richelieu, n'a-t-il pas dit, monsieur, que sa majesté vous avait confié un témoignage de sa satisfaction ? Quel est-il, je vous prie ?»« Ah ! Fit Tavernet, elle est intéressée. Tiens, je ne l'eusse pas cru. Tant mieux, Satan, tant mieux !» Il tira lentement de sa poche l'écrin donné la veille par le maréchal, à peu près comme les bons papas tirent un sac de bonbons ou un jouet que les yeux de l'enfant arrachent de leur poche avant que les mains aient agi. « Voici, dit-il. Ah, des bijoux, fit André. Sont-ils de votre goût ? C'était une garniture de perles d'un grand prix. 12 gros diamants reliaient entre eux les rangs de ces perles, un fermoir de diamants, des boucles d'oreilles et un rang de diamants pour les cheveux donnaient à ce présent une valeur de 30 000 écus au moins. Mon Dieu, mon père! S'écria André. Eh bien, c'est trop beau. Le roi s'est trompé. Je serais honteuse de porter cela. Aurais-je des toilettes qui puissent s'allier avec la richesse de ces diamants? Plaignez-vous donc, je vous prie, dit ironiquement Tavernet. Monsieur, vous ne me comprenez pas. Je regrette de ne pas pouvoir porter ces bijoux parce qu'ils sont trop beaux. Le roi qui a donné l'écrin, mademoiselle, est assez grand seigneur pour vous donner les robes. Mais monsieur, cette bonté du roi, ne croyez-vous pas que je l'ai méritée par mes services, dit Tavernet. Ah, pardon, monsieur, c'est vrai, répliqua André en baissant la tête, mais sans être bien convaincu. Au bout d'un moment de réflexion, elle referma l'écrin. « Je ne porterai pas ces diamants, » dit-elle. « Pourquoi ? » s'écria Tavernet inquiet. « Parce que mon père, vous et mon frère, vous avez besoin de tout le nécessaire et que ce superflu blesse mes yeux depuis que je viens de penser à votre gêne. » Tavernet lui pressa la main en souriant. « Oh, ne vous occupez plus de cela, ma fille. Le roi a fait plus pour moi que pour vous. Nous sommes en faveur, cher enfant. Il ne serait ni d'une sujette respectueuse, ni d'une femme reconnaissante, de paraître devant sa majesté sans la parure qu'elle a bien voulu vous donner. J'obéirai, monsieur. » « Oui, mais il faut que vous obéissiez avec plaisir. Cette parure ne paraît pas être de votre goût. Je ne me connais pas en diamants, monsieur. Et sachez donc que les perles seules valent 50 000 livres. » André joignit les mains. « Monsieur, dit-elle, il est étrange que sa majesté me fasse, à moi, un pareil présent. Réfléchissez-y. « Je ne vous comprends pas, mademoiselle, dit Tavernet d'un ton sec. « Mais si je porte ces pierreries, je vous assure, monsieur, que le monde s'en étonnera. »« Et pourquoi ?» dit Tavernet du même ton, avec un regard impérieux et froid qui fit baisser celui de sa fille. « Un scrupule. Mademoiselle, il est fort étrange, vous m'avouerez, de vous voir des scrupules là où moi je n'en vois pas. Vif les jeunes filles candides pour savoir le mal et l'apercevoir, si bien caché qu'il soit, alors que nul ne l'avait remarqué. Vive la jeune vierge naïve qui fait rougir les vieux grenadiers comme moi. » André cacha sa confusion dans ses deux belles mains nacrées. « Oh, mon frère, murmura-t-elle tout bas, pourquoi es-tu déjà si loin ?» Tavernet entendit-il ce mot? Le devina-t-il avec cette merveilleuse perspicacité que nous lui connaissons? On ne saurait le dire, mais il changea de ton à l'instant même et prenant les deux mains d'André. « Voyons, enfant, dit-il, est-ce que votre père n'est pas un peu votre ami ?» Un doux sourire se fit jour à travers les ombres dont le beau front d'André était couvert. « Est-ce que je ne suis pas là pour vous aimer, pour vous conseiller? Est-ce que vous ne vous sentez pas fier de contribuer à la fortune de votre frère et à la mienne ?»« Aussi, dit André. » Le baron concentra sur sa fille un regard tout embrasé de caresses. « Eh bien, dit-il, vous serez, comme le disait tout à l'heure monsieur de Richelieu, la reine de Tavernet. » « Le roi vous a distingué. Madame la dauphine aussi, dit-il vivement, dans l'intimité de ces augustes personnes, vous bâtirez votre avenir en leur faisant la vie heureuse. Amis de la dauphine, amis du roi, quelle gloire! Vous avez des talents supérieurs et une beauté sans rivale. Vous avez un esprit sain, exempt d'avarice et d'ambition. Oh, mon enfant, quel rôle vous pouvez jouer! « Vous souvient-il de cette petite fille qui adoucit les derniers moments de Charles VI? Son nom fut béni en France. Vous souvient-il d'Agnès Sorel qui restitua l'honneur à la couronne de France? Tous les bons Français vénèrent sa mémoire. André, vous serez le bâton de vieillesse de notre glorieux monarque. Il vous chérira comme sa fille et vous régnerez en France par le droit de la beauté, du courage et de la fidélité. » André ouvrait ses yeux avec étonnement. Le baron reprit, sans lui laisser le temps de réfléchir. Ces femmes perdues qui déshonorent le trône, vous les chasserez d'un regard, votre présence purifiera la cour. C'est à votre influence généreuse que la noblesse du royaume devra le retour des bonnes mœurs, de la politesse, de la pure galanterie. Ma fille, vous pouvez, vous devez être un astre régénérateur pour ce pays et une couronne de gloire pour votre nom. Mais, dit André étourdi, mais que faudra-t-il faire pour cela ? André, reprit-il, je vous ai dit souvent qu'il faut en ce monde forcer les gens à être vertueux, leur faisant aimer la vertu. La vertu renfrognée, triste et psalmodiant des sentences, fait fuir ceux-mêmes qui voudraient le plus ardemment s'approcher d'elle. Donnez à la vôtre toutes les amorces de la coquetterie, du vice même, c'est-à-dire être une fille spirituelle et forte comme vous l'êtes. Faites-vous si belle que la cour ne parle que de vous. Faites-vous si agréable aux yeux du roi qu'il ne puisse se passer de vous. Faites-vous si secrète, si réservée pour tous, excepté pour sa majesté, qu'on vous attribue bien vite tout le pouvoir que vous ne pouvez manquer d'obtenir. Je ne comprends pas bien ce dernier avis, dit André. Laissez-moi mieux vous guider. Vous exécuterez sans comprendre ce qui vaut mieux pour une sage et généreuse créature comme vous. À propos, pour exécuter le premier point, ma fille, je dois garnir votre bourse. Prenez ces 100 louis et montez votre toilette d'une façon digne du rang auquel vous êtes appelée depuis que le roi a fait l'honneur de nous distinguer. Tavernet donna 100 louis à sa fille, lui baisa la main et sortit. Il reprit rapidement l'allée par laquelle il était venu et n'aperçut pas, au fond du bosquet des amours, Nicole en grande conversation avec un seigneur qui lui parlait à l'oreille.